Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
h 16, on est de retour. On parle de stérilet et de moyens de contraception pendant les pauses. Si jamais, là, Enzo, justement, il parlait que il y avait le Canada.
Je parlais du projet de loi, ouais, du Canada qui a annoncé le 31 mars, donc c'était avant-hier. C'était quelque chose qui avait déjà été développé, mais qui annonçait l'initiative de vouloir rembourser les contraceptifs féminins et de rendre la gratuité aux contraceptifs féminins, notamment pilules, stérilets, implants, serviettes, tous ces trucs-là. C'est pour ça que j'ai rien parlé de ça, mais je pourrais en parler dans une chronique, c'est assez intéressant.
Sinon, allez lire là-dessus, là, c'est super intéressant. C'est aussi intéressant que le Québec s'en oppose. Mais on retourne sur le sujet. Donc, entrevue de Akila Agoun en lien avec le panel Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Donc, c'est il y a 3 semaines, je crois. Est-ce que c'est ça? 3 semaines, moi et Enzo, on est allé à un panel qui se faisait à l'Agora, là, directement à côté de la bibliothèque Roger Maltais. Donc, c'était un panel en lien avec la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Et c'est ça, la dernière, on avait fait il y a 2 semaines. 3 semaines, plusieurs entrevues avec les gens qui étaient sur ce panel-là. Et la dernière personne, en fait, c'est Akila Agoun, qui était senior advisor à l'UNICEF, notamment tout ce qui était en lien avec le droit des femmes et des enfants. C'est pas mal ça. Donc, c'est Akila Agoun, pour vrai, je m'attendais vraiment pas à rencontrer quelqu'un comme ça à ce panel-là, tu sais. Organisé par un petit comité, l'association des Burkinabés de l'Estrie, qui, on l'avait appris sur place, sont à peu près 100 au total à Sherbrooke, et ils ont été capables d'amener justement quelqu'un qui... J'étais allé voir son LinkedIn, je crois que c'est 8 pages en CV.
Ah non, mais c'est une sacrée opportunité, ouais. C'est ce qu'on a eu de rencontrer des gens avec un pedigree aussi conséquent, puis oui, avec une perspective aussi intéressante qu'elle a pu apporter sur la question du travail, des travailleuses, des immigrés. Il y a la notion d'intersectionnalité ici, hein, qui s'est mis en perspective, notamment quelqu'un qui a travaillé pour l'UNICEF.
Oui, c'est ça, elle a travaillé pour l'UNICEF. Sur ces belles paroles, je vous envoie l'entrevue et on se revoit après cette entrevue. Donc, dernière entrevue de la journée, on est avec Madame Agoun, qui était justement une experte aux Nations Unies, notamment sur les questions des droits des enfants et des expériences, notamment d'avancer le droit des enfants et des femmes des programmes de développement sociaux. Première question pour vous. Merci de prendre le temps de ce temps avec nous. Qu'est-ce que ça fait justement de participer à un tel panel justement et de pouvoir prendre le temps justement de parler un petit peu de la commémoration de la Journée des droits des femmes?
Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité et du rôle que la radio de l'Université de Sherbrooke apporte également dans l'esprit de la communication, de l'information et de la sensibilisation. Donc j'ai participé à ce panel pour apporter ma modeste contribution à la Journée internationale des droits de femmes qui est célébrée chaque année dans tous les pays du monde, qu'ils soient des pays en développement ou des pays développés, pour faire le point sur les progrès, les défis rencontrés et les perspectives à considérer. C'est également une opportunité pour rendre hommage à toutes les femmes modèles, les femmes pionnières qui se sont battues pour faire avancer les droits de femmes au niveau international, au niveau national et au niveau communautaire. Et c'est également une opportunité de solidarité par rapport à ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça que le thème a été « Regard croisé » sur les droits des femmes ici et ailleurs. Donc c'était une occasion pour nous de partager notre expérience dans le domaine de la gestion des programmes de développement et des programmes de coopération avec les différents pays, de tracer la situation des femmes dans le monde avec les progrès qui ont été acquis, mais également avec les difficultés qui restent à faire. Et la problématique qui demeure partout dans le monde, c'est la question des inégalités. Donc même quand il y a des progrès, il y a un écart qui demeure sur la base de la question du genre pour différentes raisons.
Merci beaucoup pour votre réponse. Moi, j'ai une autre question. Là, vous aviez fait justement une citation. Ben, je vous ai cité, en fait. J'ai trouvé que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Vous avez dit, quand il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de progrès. Et justement, c'était, vous parlez des statistiques, notamment, des pas nécessairement des reculs dans le monde, mais des statistiques par rapport au statut des femmes, justement, dans le monde. Donc, j'aimerais que vous me parliez un petit peu plus, justement, de cette phrase-là qui m'a parlé beaucoup.
Effectivement, pour connaître et considérer un problème, vous avez besoin de connaître la situation. Et pour pouvoir connaître la situation, vous avez besoin de données. Mais si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas avoir une perception objective ni une image particulière du problème. Et à ce moment-là, le problème peut exister, mais ça veut dire qu'il n'est pas visible. Et à ce moment-là, il est difficile de programmer des politiques en la matière ou des lois en la matière. Et à ce moment-là, ça fait des victimes, ça fait des femmes qui peuvent subir ces différentes situations et pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Et pour cela, les statistiques le montrent. Donc, si elles le montrent et si elles sont absentes, ça veut dire que le problème est absent. Mais ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas. Et c'est pour cela que notre recommandation, c'est que les États, les institutions, dans les différents domaines techniques, scientifiques et universitaires, puissent considérer tous les problèmes vécus par les populations en général et par les différentes composantes de la société, et particulièrement les femmes. Donc, pour nous, il y a un travail sérieux qui doit être fait, pas simplement dans la définition des données dont on a besoin, mais également dans les mécanismes à mettre en place pour collecter ces données et également pour pouvoir les utiliser. Sinon, nous avons connaissance de pas mal de rapports qui sont faits par des professeurs, des enseignants, des chercheurs, mais qui restent des rapports d'information qui ne sont pas utilisés. Et la difficulté, c'est que nous avons du mal à comprendre que ça n'arrive même pas au niveau des structures censées prendre les décisions à l'égard de ces problèmes-là.
Ben, merci beaucoup, Madame Agoun, pour vos réponses. Est-ce que vous aviez un dernier mot de la fin à dire à nos auditeurs avant de conclure cet échange ? Je vous laisse le dernier mot.
Oui, je voudrais m'adresser surtout aux jeunes, qu'ils soient étudiants ou dans les autres sphères de la société, de considérer que quand nous parlons des droits des femmes, c'est en fait une composante des droits humains. Donc ce n'est pas une question de conflit de droits entre les droits humains de façon générale qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, que les droits spécifiques qui concernent les femmes. Raison pour laquelle nous avons des instruments des Nations Unies sur les droits humains de façon générale qui précisent les droits civils, les droits économiques, les droits politiques, les droits sociaux et les droits culturels, mais il a fallu, à un moment donné, élaborer un instrument spécifique que nous appelons la Convention sur toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est pour mieux cibler la connaissance des situations et surtout de la problématique, du contexte et tout ce qui tourne autour de ces situations pour pouvoir mieux les adresser parce qu'elles échappent au niveau des statistiques, elles échappent au niveau des stratégies d'application. Et si elles sont dans une situation minoritaire, effectivement, les réponses peuvent être absentes. Et à ce niveau-là, pour les jeunes, nous souhaitons qu'ils puissent s'intéresser un peu plus sur ce qui se passe autour d'eux, qui concerne les femmes autour duquelles ils vivent, mais également les femmes d'ailleurs, et avoir cette perspective ouverte au monde. Et nous pensons que pas mal de préjugés que nous constatons de plus en plus au niveau des jeunes, que ce soit des jeunes ou des adolescents, c'est beaucoup plus lié à une certaine ignorance. Donc plus nous leur donnons cette capacité de s'informer, plus eux-mêmes ils cherchent à s'informer et surtout à chercher les bonnes sources d'informations. pas simplement les informations qui circulent au niveau des médias sociaux, même si nous trouvons que c'est une source également de formation. Tout dépend du contenu de l'information qui circule, mais de chercher la bonne information et de l'utiliser à bon escient. Et à partir de là, d'avoir eux-mêmes leur propre appréciation et de prendre des décisions. Et je suis sûre que s'ils ont la bonne information, ils auront le bon comportement.
Eh ben merci pour l'événement d'aujourd'hui, merci pour vos réponses qui ont été très enrichissantes et je vous souhaite de passer une belle journée et merci pour
9h26, on est de retour après la petite entrevue et d'ailleurs notre entrevue qui a été coupée court. Enzo, justement, quelque chose à
ouais, non, c'était comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment intéressant, c'était une sacrée opportunité, comme vous avez pu l'entendre, d'avoir c'est des perspectives de quelqu'un qui a travaillé dans le milieu humanitaire, sur le terrain, puis voilà, qui a apporté, comme je le disais, un point de vue intéressant sur la question des femmes, la question de l'immigration pendant la conférence à laquelle on a pu assister. Je veux également vous faire une courte chronique sur la condition des femmes au Burkina Faso. En fait, ma chronique sera en lien avec l'événement, d'ailleurs. Car on avait pu discuter avec le président de l'association. On a discuté avec lui pendant 15-20 minutes avant l'événement.
Et interviewé.
C'était juste une discussion ultra spontanée. Il a discuté avec nous, on a échangé, c'était passionnant. Mais on n'avait pas le matériel, on ne l'a pas enregistré. Donc je vais vous faire le récapitulatif de cette discussion. Voilà, une chronique qui récapitule une discussion passionnante qu'on a eue avec ce monsieur. Et je vais aussi appuyer ça à travers des chiffres et quelques concepts liés à la question des mutilations faites aux femmes du Burkina Faso. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez prenant, assez sensible, mais il est important d'en parler. Donc voilà, c'est une chronique qui est en lien avec notre événement, et je crois que ça sera notre dernière chronique en lien avec cet événement-là.
Je crois aussi, oui.
On repassera en chronique régulière après.
Et vous allez justement avec Akila Gun, j'ai fait un article qui est dans le collectif, qui était dans la dernière édition.
On peut, ouais.
Vous pouvez aller le voir, le rendu voilà. Écrit.
On peut aller si plus jamais. Loin avec l'article
mais
dans le collectif.
Ça va être fini finalement. Bon. Ça nous a donné tellement de contenu ce panel.
C'était intéressant.
C'était si intéressant.
Ouais, tout de suite.
Donc, on vous envoie en petite pause musicale, puis c'est ça va être la petite chronique à Enzo, la dernière en lien avec cet événement.